Merci, Mme Gourlet.
Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, effectivement, Madame la Vice-Présidente, je voudrais effectivement féliciter tout d'abord les équipes pour le travail qui a été engagé. Cela dit, je crois que dans ce catalogue d'intentions, il faut insister sur ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie et nous distingue des autres métropoles et territoires. Alors c'est vrai que la question de la délimitation du territoire, elle est importante et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit par Emmanuel Lebeau. Cela dit, notre métropole doit affirmer son attractivité à travers son identité européenne, de par son histoire bien sûr, mais aujourd'hui évidemment par sa position géographique à proximité immédiate des trois frontières et au cœur d'un espace transfrontalier entre Metz et le Luxembourg. Le Luxembourg doit être considéré comme un partenaire et je voudrais dire à votre premier vice-président que ce sera difficile d'avoir le Luxembourg comme partenaire lorsqu'on entend dans des commissions dire que l'on en a marre de ces luxembourgeois qui nous prennent nos jeunes formés et nous les rendent vieux et malades, qu'on en a marre de nos frontaliers qui rentrent du Luxembourg les poches vides et le coffre plein. Je ne pense pas que ce soit une vision moderne de notre métropole transfrontalière et je crois que cette appréciation est totalement dogmatique, dépassée et je dois dire que je n'ose imaginer notre territoire sans la proximité du Luxembourg. Alors pour pouvoir affirmer son identité, il convient évidemment d'améliorer son accessibilité, que ce soit en termes d'infrastructures routières ou ferroviaires. En ce qui concerne le ferroviaire, on en a parlé, mais c'est vrai que je voudrais insister sur ces liaisons TGV Paris-Metz, sur lesquelles des interrogations et incertitudes continuent de planer. La mobilisation des élus a permis de revenir sur la suppression du 8h56. Cela dit, la problématique n'est absolument pas réglée. On a parlé des problèmes de cadencement. On a aujourd'hui une rupture de ces cadencements et des correspondances par Nancy, ce qui n'est absolument pas acceptable. De la même manière, il n'est pas acceptable que la liaison directe Metz-Nice ait été supprimée et qui fait aujourd'hui de Metz un véritable cul-de-sac ferroviaire. Et je pense évidemment, on en a parlé, au TER vers Luxembourg qui sont tous les jours bondés et pour lesquels, je le sais, la région Grand Est a prévu d'ores et déjà des améliorations. On sait combien le président Rottner est investi sur ce sujet, main dans la main d'ailleurs avec les luxembourgeois. Ce qui pose d'ailleurs la question de la gouvernance en matière de transport dans cet espace transfrontalier, mais c'est un autre sujet. Je pense enfin et surtout à ce serpent de mer qu'est l'A31 bis. Ne pas faire cette autoroute, ce serait catastrophique pour notre territoire. Cela fait 20 ans que l'on en parle, l'A32 n'a jamais pu voir le jour. On n'a pas avancé d'un pouce sur l'A31 bis. Vous annoncez une prise de position de notre métropole sur ce sujet en mars prochain. Il serait peut-être pertinent de réunir un conseil extraordinaire, car il me semble que ce dossier est primordial pour notre avenir. L'État avait annoncé en 2017 qu'il s'agissait là d'un chantier national prioritaire et avait également annoncé une participation de 400 millions sur l'intégralité du tracé, le projet étant chiffré aujourd'hui entre 1,4 milliard et 1,9 milliard. Faute de moyens, et on peut dire d'ailleurs merci à la disparition de l'écotaxe, l'État tente aujourd'hui de se défausser en prétextant l'absence de consensus entre les élus et le manque d'intérêt des usagers. Comment peut-on affirmer de telles inepties lorsque l'on sait que les automobilistes passent en moyenne jusqu'à 4 heures de trajet quotidien, domicile-travail, entre Metz et le Luxembourg? Avec plus de 130 000 véhicules jour, dont un nombre très important de poids lourds, c'est l'axe autoroutier le plus fréquenté en Europe. Alors qu'il faille développer des solutions nouvelles, notamment celles permises par le numérique et les nouvelles technologies, c'est certain. Télétravail, covoiturage, mode de transport innovant, tout est envisageable. Et ce sera d'ailleurs débattu lors de la conférence débat qui se tient dans le cadre de la concertation. Cette conférence débat mobilité du futur qui se tient mercredi au CESCOM. Mais si elle n'est pas suffisante, l'A31 bis est indispensable compte tenu de son triple rôle vital. Elle irrigue nos activités économiques tout le long de la Moselle. Elle est autoroute urbaine et elle a une fonction d'eurocorridor de transit. Et s'agissant de notre métropole, c'est aussi par l'autoroute qu'on accède aux hôpitaux, à notre université, à toutes nos institutions. Sans cette autoroute, on va étouffer notre métropole. Alors c'est maintenant, entre la fin de la concertation et les conclusions qui seront rendues, que tous les élus doivent se mobiliser, doivent mettre leurs actes en conformité avec leurs paroles, avec leurs discours, montrer leur détermination et continuer de faire pression sur l'État pour que ce chantier reste prioritaire et que son financement reste une priorité nationale. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Thiel.
Oui, Monsieur le Président, chers amis et chers collègues, ces débats sont toujours assez intéressants parce que, d'abord, je voudrais souligner, comme on l'a fait, le travail qui a été fait, bien entendu, sous votre égide. Je salue Madame Agamemnon qui a mené ces travaux et je suppose que vous avez été nombreux à travailler. Donc, je veux dire, ne prenez ma modeste contribution que comme, je dirais, peut-être un éclairage souhaité. Je m'inscris tout à fait dans ce qu'ont dit mes collègues et je n'insisterai pas, ils viennent de s'exprimer, mais évidemment la 31 est extrêmement importante. Je voudrais aussi dire que, vous savez, il y a un moment donné, on voit dans les pages les atouts dont on ne se sert pas assez. Et dans ces atouts dont on ne sert pas assez, il y a le port de Metz. Et ceci doit nous inciter à faire aussi de nos axes fluviaux et d'être déterminés là-dessus parce que nous sommes effectivement à un carrefour de l'Europe, comme on dit aussi, mais l'État a abandonné le projet, je dirais, de l'ouverture fluviale vers le Rhône. Or, on sait parfaitement aujourd'hui que l'économie mondiale se fait autour des ports. Malheureusement, nous ne sommes pas un port de mer, ça n'aura échappé à personne, mais il faut tout faire pour essayer de se relier à ces ports qui sont quand même un autre chemin du développement durable pour l'ensemble de nos marchandises. Et puis enfin, mais ça n'étonnera pas, parce que je veux être très court, bien sûr, comme tout le monde l'a été, pour dire que je souhaiterais que la culture, qui est tout de même un élément absolument indispensable dans le monde dans lequel nous sommes, avec ses tiraillements populistes, avec, je le dis comme je le pense, cette inculture qui gangrène progressivement le politique, et un jour on se retrouvera, en ayant à nos portes ce que nous ne souhaitions pas. Vous savez, les grands empires, les grandes nations meurent toujours parce qu'à un moment donné, les barbaries sont plus fortes qu'elles. Or, la culture, c'est quelque chose de déterminant. Et chers amis, je ne voudrais pas que la culture ne soit qu'une sous-rubrique de art and tech. On a l'impression que l'on sacrifie aux modes ambiantes et qu'on ne trouve même pas les points d'appui qui nous permettrait de nous ériger comme étant sans doute une des métropoles les plus brillantes culturellement de France. Et je pèse mes mots. Comparons-nous, chers amis, qu'est-ce que Metz Métropole en culture ? On a à la fois un grand musée qui s'appelle le musée de Metz Métropole, dont vous avez commencé, cher président, j'ai vu toujours le tutoiement, à établir les choses. Musée passionnant. On a Pompidou, qui est la seule décentralisation au monde qui existe de manière permanente. Je le dis, parce qu'on a entendu parler de Pompidou-Barcelone, de Pompidou-Bruxelles, enfin tout ça, ce sont des choses qui naissent un jour et meurent le lendemain. C'est extrêmement important. En termes d'image, on s'en sert beaucoup, mais ne l'oublions pas, ce n'est pas une sous-catégorie d'art and tech. On a le plus vieil opéra de France, toujours en activité, avec une programmation extrêmement brillante. On a un orchestre national, on a des salles comme la BAM, mon cher Hassène, et comme l'Arsenal, dans lesquelles, qui sont connues dans le monde entier, parce que lorsque vous allez à New York ou à Pékin, et que vous allez acheter quelques disques, eh bien, il y a là des disques qui ont été enregistrés à l'Arsenal. Je veux dire, comparez-vous à Bordeaux, comparez-vous à Toulouse, comparez-vous à Lyon, nous n'avons pas à rougir, nous ne sommes pas une métropole de 400 000, de 500 000, voire plus d'habitants. Donc appuyons-nous sur ce qui fait, je dirais, notre force culturelle et qui nous coûte à tous. Et merci d'y donner les contributions financières, mais je veux dire, appuyons-nous sur cela pour son rayonnement. Il n'aura échappé sans doute à personne qu'il fallait bien que ce soit quelqu'un qui le dise et que ce fût moi n'étonnera pas non plus. Merci beaucoup.
Merci, d'autant que nous fêtons demain les 30 ans de l'Arsenal avec le premier concert que nous avons eu le 26 février 89. Alors, ensuite, c'était François Gros-Didier. Ensuite, jeudi, je n'avais pas vu M. Lécadir et M. Gros. Voilà, François.